إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on va donc terminer ce soir, inshallah ta'ala, le premier fondement de cet épître de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. On a vu la semaine dernière différentes adorations que le shaykh, rahimahullah ta'ala, a mentionné à titre d'exemple et pour attirer l'attention du lecteur sur le fait que ces actes sont des adorations et qu'ils doivent être voués exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. On s'est donc arrêté la semaine dernière à Al-Khashya. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit « وَدَلِيلُ لِنَابَتِ قَوْلُهُ تَعَالَ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ » Et la preuve concernant Al-Inaba, c'est-à-dire concernant le fait que Al-Inaba est une adoration. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés, « Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. » Al-Inaba, que l'on peut traduire par le retour vers Allah, a un sens proche du repentir. Et certains savants ont même dit que Tawba et Al-Inaba ont le même sens et désignent tous deux le repentir. Et d'autres ont précisé que Al-Inaba, c'est en fait un repentir accompagné d'un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala par l'accomplissement des œuvres pieuses. Cela a donc un sens plus précis et plus particulier que le repentir. En effet, il est possible qu'une personne qui a commis certains péchés se repentisse, délaisse ce péché, ne le commette plus et regrette d'avoir commis ce péché. Et c'est ainsi repenti à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en parallèle, il se peut que son retour vers Allah soit faible et qu'il ait des manquements vis-à-vis de certaines adorations. C'est-à-dire qu'il ne s'empresse pas à accomplir des adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'inaba, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, elle consiste à s'empresser à rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu te repentes de tes péchés et que tu t'empresses et que tu te diriges et t'orientes vers Allah subhanahu wa ta'ala par quoi ? Par l'accomplissement d'œuvres pieuses. Allah subhanahu wa ta'ala a donc dit dans ce verset « وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ » Revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Revenez repentant, c'est-à-dire repentez-vous de vos péchés et empressez-vous de vous diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant des œuvres pieuses. Min qabli an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun. Avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevrez alors aucun secours. En effet, at-tawba, le repentir, al-inaba, également le retour vers Allah, le fait de se repentir de ses péchés, ceci a une limite. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le repentir n'est plus accepté. Et c'est au moment de l'agonie. Lorsque la personne est en train d'agoniser et que lui vient la mort, alors à ce moment-là, il n'est plus possible pour elle de se repentir. Également, le repentir n'est plus accepté lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Tu dois donc t'empresser de te repentir avant que ne te vienne la mort et avant que le soleil ne se lève de son couchant. Et il est connu que le repentir, pour être accepté, il a des conditions. Et la première condition est qu'il soit fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu te repentes de ton péché en recherchant par cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de te mettre à l'abri de son châtiment. La deuxième condition est que tu regrettes d'avoir commis ce péché. C'est-à-dire que tu aies des remords et que tu souhaiterais ne l'avoir jamais commis. La troisième condition est de délaisser totalement ce péché, et immédiatement. Car si tu continues de faire le péché, alors en réalité, tu n'es pas en train de te repentir. Donc tu dois délaisser immédiatement ce péché. Le quatrième, ou plutôt la quatrième, est que tu aies la ferme intention de ne plus commettre ce péché à l'avenir. Et on rajoute une cinquième condition, si ce péché concerne un droit des créatures. Les quatre premières conditions, elles concernent un péché qui concerne le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu as commis une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite, ou alors tu as délaissé une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrite et t'a rendue obligatoire. Mais si ton péché concerne un droit des créatures, alors on rajoute une cinquième condition, qui est le fait de réparer ce droit et de rendre ce droit à cette personne. Ceci sont donc les cinq conditions du repentir que les savants ont mentionnées, et on peut en jeter une sixième, qui est le fait de faire ce repentir avant qu'il ne soit plus accepté, avant qu'il ne puisse plus être accepté, comme on a dit, avant que le soleil se lève de son couchant et avant l'agonie de la mort. Car à ces moments-là, le repentir n'est plus accepté. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter le repentir et de l'accepter de nous. Cette adoration, elle est donc réservée à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Et il n'est pas permis de l'avouer autre que lui. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de se repentir à lui dans ce verset. Il a dit « Wa anibu ila rabbikum » et revenez repentant à votre Seigneur. Ceci nous prouve donc que c'est une adoration, et si c'est une adoration, elle ne peut être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il va mentionner trois adorations qui sont relativement proches et qui ont une certaine similitude. Car ces trois adorations qu'elle va mentionner, ce sont en fait des formes d'invocation. Al-isti'ana, al-isti'adha et al-istiratha, qui sont la demande d'aide, la demande de protection ou de refuge et la demande de secours. Donc ces trois actes que le shir rahimahullah va mentionner sont des invocations. Et on a vu dans la sixte d'il y a deux semaines ce qui concernait l'invocation. Et on a vu dans quel cas il était permis d'adresser certaines demandes à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu les conditions pour cela. Il est donc permis d'adresser une demande, que ce soit une demande d'aide, une demande de secours, une demande de refuge à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à trois conditions. La première condition est que la personne à qui tu adresses cette demande, elle soit vivante. La deuxième condition, c'est qu'elle soit présente. Et la troisième condition, c'est qu'elle soit capable d'accomplir ce que tu lui demandes. Car si ce que tu lui demandes fait partie des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir, comme le fait de lui demander de te protéger du feu de l'enfer, ou alors de t'accorder le secours à un moment où seul Allah subhanahu wa ta'ala peut te sortir d'affaire, alors dans ce cas-là, tu as adressé une demande qui est en réalité du polythéisme majeur. L'auteur rahimahullah ta'ala, il a donc dit « Wa dalilu l'isti'ana » et la preuve concernant la demande d'aide, c'est-à-dire la preuve concernant le fait que la demande d'aide est une adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. « Qawluhu ta'ala, iyaka na'bud wa iyaka nasta'in » C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. « Wa fil hadith, idha sta'anta, fasta'in billah » Et on trouve dans le hadith la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu demandes l'aide, alors demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci nous prouve donc que la demande d'aide est une adoration. Et comme on l'a dit, le fait de demander l'aide pour une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir et adresser cette demande à autre que lui est du polythéisme majeur qui fait sortir la personne de l'islam. Donc il n'est pas permis d'adresser ce genre de demande à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui nous prouve que la demande d'aide est une adoration dans le verset. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Donc Si nous voulons cet acte à Allah seul, cela veut dire que cet acte est une adoration. Ensuite, il a dit, rahimahullah, وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, et la preuve concernant la demande de protection ou la demande de refuge, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés, dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'Omniscience ». Ainsi que sa parole, selon la traduction des sens rapprochés, dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes ». Donc la demande de protection, al-isti'ada, c'est le fait de chercher refuge auprès de celui qui va te protéger de ce dont tu as peur et ce afin qu'il repousse de toi son mal. Et ceci est une forme d'adoration. Il n'est donc pas permis de chercher refuge auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui cherchent refuge auprès des tombes, auprès des idoles, ou auprès d'autres choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait cela, il a commis du polythéisme majeur. Les Arabes, à l'époque pré-islamique, lorsqu'ils arrivaient dans un endroit, lorsqu'ils étaient en voyage, ils arrivaient dans une vallée, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils cherchaient refuge auprès du maître de cette vallée, c'est-à-dire le grand parmi les djinns, et ce afin de se préserver du mal des djinns. Et ceci est une forme de polythéisme majeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc aboli cela. Et il leur a expliqué ce qui était légiféré en ce moment-là, c'est-à-dire lorsque le voyageur arrive dans un endroit dans lequel il va s'arrêter, lorsqu'il va faire une halte dans un endroit. Et il leur a dit que quiconque fait une halte dans un endroit alors qu'ils disent « A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq » « Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui prononce cette parole, alors rien ne lui nuira jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Et à titre d'exemple, je vais évoquer une petite anecdote qui m'est arrivée personnellement avec des frères lorsque nous étions au Yémen. Nous étions sortis un soir au bord de la plage auprès d'une falaise. Et nous étions assis au bord de l'eau et nous discutions et nous évoquions certaines choses que nous avons vues dans des cours. Alors un frère a rappelé aux autres de faire cette invocation. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Tous les frères présents dans l'assise ont alors fait cette invocation. Puis, quelques minutes après, nous nous sommes levés de cet endroit. Et nous sommes éloignés un petit peu. Et c'est alors que, subhanallah, un gros rocher est tombé du haut de la falaise. Un gros rocher est tombé du haut de la falaise et il est tombé à l'endroit où nous étions assis, subhanallah. Alors on s'est rappelé de cette invocation que le frère avait rappelé de faire, subhanallah. Et ceci nous montre que le musulman, il doit avoir la certitude en la véracité des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans ce hadith, celui qui fait halte à un endroit et qui dit cette invocation, alors rien ne lui nuira jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Subhanallah. Ceci était donc une petite parenthèse. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donc ordonné dans ces deux sourates de chercher refuge auprès de lui. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de lui vouer un acte, cela veut dire que cet acte est une adoration. Et si cet acte est une adoration, alors on doit lui vouer exclusivement en dehors de tout autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَدَلِيلُ الْإِسْتِغَاثَ » et la preuve concernant la demande de secours. « قَوْلُهُ تَعَالَى إِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ » et quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Al-istighatha, c'est donc une autre forme d'invocation qui est particulière. Et c'est le fait de demander le secours au moment de la difficulté. C'est-à-dire lorsque la personne se retrouve dans une difficulté, l'invocation qu'il fait pour sortir de cette difficulté, cela s'appelle al-istighatha. La demande de secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te sorte de cette difficulté. Et comme les précédentes, cet acte, il ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu demandes une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir. Comme ceux qui recherchent secours auprès des djinns ou auprès des morts, ceci est de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au fait de demander le secours d'une personne vivante, présente, est capable de te porter secours dans la situation dans laquelle tu te trouves, alors ceci est permis et il n'y a aucun mal en cela. Comme le prouve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de Moussa alayhi salam dans Surat al-Qasas au verset 15, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi » Alors, celui qui faisait partie de son clan implora son secours contre celui qui faisait partie de ses ennemis. C'est-à-dire qu'il a imploré son aide contre cet homme qui lui causait du tort et Moussa alayhi salam était capable de lui porter secours. Ceci nous prouve donc qu'il est permis de demander le secours à une personne selon les conditions que l'on a citées précédemment. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit « وَدَلِيلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » Dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Ce verset est donc une preuve que le sacrifice est une adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sacrifice est de deux sortes. Il y a un sacrifice d'adoration et un sacrifice permis. Le sacrifice d'adoration, c'est celui qui est fait dans le but de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de révérer Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci ne doit donc être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et à nul autre que lui. Et les sacrifices d'adoration que le musulman accomplit, il y a le sacrifice que tu accomplis pour Eid al-Adha, la fête du sacrifice, celui qui est accompli pendant le pèlerinage, l'offrande, et celui qui est accompli à l'occasion de la naissance d'un enfant, al-Aqiqa. Tous ces sacrifices sont accomplis dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne doivent être voués à nul autre que lui. Quant à ceux qui sacrifient pour autre que lui, comme ceux qui se rendent auprès des tombes, cherchant à se rapprocher de ses habitants, ou ceux qui égorgent ou qui sacrifient des bêtes afin de se préserver du mal des djinns, ou alors pour obtenir la guérison d'une maladie, ou autre chose qui leur sont demandées par les sorciers, les devins ou autres, alors tout ceci fait partie du polythéisme majeur. Tout ceci fait partie du polythéisme majeur, car ces sacrifices sont accomplis pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si la personne dit « Mais lorsque je le fais, je dis Bismillah ». Il sacrifie sur le pas de sa porte afin de se préserver du mal des djinns et il dit Bismillah et il prétend qu'il n'a pas commis de shirk sous prétexte qu'il a mentionné le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en réalité, qu'est-ce qui l'a poussé à accomplir cet acte? Pourquoi il a sacrifié cette bête sur le pas de sa porte si ce n'est pour se préserver du mal des djinns? Et donc, il leur a voué cette adoration et il a commis ainsi du polythéisme majeur qui fait sortir de la religion de l'islam et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il en est de même pour ceux qui vont accomplir les sacrifices auprès des tombes et qui délaissent la viande auprès de celles-ci. Pourquoi ont-ils accompli ce sacrifice si ce n'est pour se rapprocher des habitants de ces tombes? Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Le deuxième type de sacrifice est le sacrifice qui est permis. Et il est de différentes sortes. Il est permis à l'homme de sacrifier une bête dans le but de manger sa viande. Et il n'y a pas de mal en cela. Et il peut même faire de cela une adoration s'il a pour intention de nourrir sa famille, par exemple. Le deuxième type de sacrifice permis, c'est celui qui est accompli à l'occasion des fêtes ou des moments de joie, comme lors des mariages, par exemple. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a même ordonné un jour à l'un de ses compagnons de faire al-walima, ne serait-ce qu'en sacrifiant un mouton, c'est-à-dire en sacrifiant une bête et en donnant à manger à tes invités lors de cette fête. Ceci est permis et c'est même une sunna pour la walima du mariage. Le troisième type de sacrifice permis, c'est le sacrifice dans le but de vendre la viande. Il n'y a pas de mal en cela. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit « وَدَلِيلُ النَّذْرِ » et la preuve concernant le serment pieux. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « يُوفُونَ بِالنَّذْرِ » وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا Ils accomplissent leurs vœux et redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. An-nadr, que l'on peut traduire par le vœu ou le serment pieux, cela consiste à ce que la personne, elle s'impose une chose qui n'est pas obligatoire à la base dans la législation. Par exemple, que la personne s'impose de jeûner tous les lundis et les jeudis. Ceci est légiféré, mais ce n'est pas obligatoire à la base. Mais si la personne fait ce vœu et ce serment de jeûner tous les lundis et les jeudis, alors ceci devient obligatoire pour elle. Et il est obligatoire de s'en affranchir. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque fait le serment d'obéir à Allah, alors qu'il lui obéisse. » Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, d'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Par contre, si une personne fait le serment de désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, alors il ne doit pas lui désobéir. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le même hadith, « Et quiconque fait le serment de désobéir à Allah, alors qu'il ne lui désobéisse pas. » Par exemple, si une personne fait le serment de commettre un péché, alors il ne doit pas le faire. Ceci est un serment qui n'est pas valide et qui ne doit pas être accompli. An-nadr, le serment pieux, c'est donc une forme d'adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et à nul autre que lui. Et il est de deux sortes. Il y a le serment qui est absolu et il y a le serment qui est restreint. Le serment qui est absolu, c'est le fait, comme on a dit, que la personne, elle s'impose d'accomplir un acte pour Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas légiféré à la base de la législation. Il dit par exemple, pour Allah, je jeûnerai tous les lundis et les jeudis. Ceci devient donc obligatoire pour lui. Et ceci à la base, il est conseillé de ne pas le faire afin de ne pas s'imposer une difficulté que tu ne pourras pas supporter par la suite. Le deuxième type de nadr, c'est le serment restreint, c'est-à-dire qui est conditionné par une chose. Et c'est ce que font certaines personnes, comme lorsqu'ils sont malades par exemple. Il dit « Oh Allah, si tu me guéris, je jeûnerai demain ». Ceci est donc une forme de serment restreint. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la guérison, alors le jeûne deviendra obligatoire pour lui le lendemain. Ou toute autre adoration. « Oh Allah, si tu me guéris, je ferai une aumône de 50 euros. Oh Allah, si tu m'accordes un enfant, je ferai telle ou telle aumône ou tel ou tel acte. » Donc ceci est une forme de serment qui est restreint. Et les savants ont dit que cette forme de serment est détestable. Cette forme de serment est détestable. Et c'est à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il ne fait que sortir l'argent de la poche de l'avare. » Ou comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam. En effet, lorsque la personne fait cette forme de serment, c'est comme s'il pensait qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait besoin de son adoration pour lui accorder la guérison. Ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait besoin de son adoration pour répondre à son invocation. C'est pour ça qu'il faut délaisser cette forme de serment. Il faut délaisser cette forme de serment, car en réalité, cela revient à avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. En lui demandant de faire une chose et de répondre à ton invocation, en mettant en condition que tu accomplisses cet acte, seulement si Allah subhanahu wa ta'ala te répond. Non, ce n'est pas comme cela que tu dois te comporter vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jeûne, prie, fais des aumônes et invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'accorde ce que tu souhaites. Si tu souhaites être guéri d'une maladie, si tu souhaites avoir des enfants, si tu souhaites te marier ou toute autre chose. Fais ces actes sans te les imposer, sans les conditionner vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, si une personne accomplit un tel serment, alors elle devra s'en affranchir. Alors elle devra obligatoirement s'en affranchir, comme on l'a mentionné d'après le hadith. Le nadr est donc, le serment, est donc une adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, comme les précédentes. Et c'est ainsi qu'on termine le premier fondement, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu dans ce premier fondement différentes questions. Et la plus grande et la plus importante est que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah est celui qui t'a créé. Allah est celui qui t'accorde ta subsistance. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui possède tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Donc, il n'y a pas de doute qu'il est le seul à mériter l'adoration. Et ceci est le point le plus important qu'il faut retenir de ce fondement. Que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que quiconque voue une quelconque adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est alors un polythéiste mécréant et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. On commencera donc la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, le deuxième fondement qui est la connaissance de la religion de l'islam, bi'innillahi ta'ala. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.